Bonjour Marie-Thérèse.
Bonjour Jean-Marie.
Eh bien, heureux de retrouver les auditeurs de FM Plus hein, sur la fréquence de 91 FM. L'Amnesty International donc va centrer son émission mensuelle sur le thème des femmes et plus exactement des violations des droits des femmes qui sont toujours aussi nombreuses malheureusement. Et on va évoquer quelques cas particuliers qui nous ont frappés et choqués et même scandalisés. Mais avant ça, nous allons revenir sur les tristes événements qui ont endeuillé la France début janvier. Et Marie-Thérèse, je crois que tu voudrais nous signaler la mise au point qu'a faite Amnesty sur ces événements.
Oui, par la bouche de sa présidente Geneviève Garrigós, qui est intervenue à chaud auprès des militants, des sympathisants et de quiconque pouvait l'entendre. Voilà, pour dire ceci, tous ceux et toutes celles pour qui la défense des droits humains est indissociable d'une société où chaque individu peut vivre libre et digne, se retrouvent orphelins après l'attaque survenue le mercredi 7 janvier dans les locaux de Charlie Hebdo. Depuis des décennies, Charlie Hebdo contribue à la liberté et à l'indépendance de la presse, une liberté qui n'est pas un luxe, mais une nécessité absolue pour chacun d'entre nous. Ce journal contribue également à la diversité des opinions. Il nous a appris la dérision, parfois perçue comme offensante. Les personnes qui ont été assassinées l'ont été parce qu'elles défendaient une de nos libertés fondamentales, celle de s'exprimer librement, de défendre ses opinions dès lors qu'il ne s'agit pas d'incitation à la haine ou à la violence. Amnesty International défend la liberté de la presse, la liberté d'expression, les journalistes qui sont attaqués, assassinés à travers le monde. Aujourd'hui, ce sont des journalistes qui nous étaient proches. Cette proximité ne doit pas nous éloigner de nos valeurs et de nos engagements. À chaque fois que nous nous élevons contre des crimes odieux, nous demandons que toute la vérité soit faite et que les personnes ayant commis ces actes soient traduites devant la justice dans le respect de leurs droits fondamentaux. Nous demandons la justice, non la vengeance. Nous demandons à ce que les mesures d'exception, les mesures de lutte contre le terrorisme qui seraient prises, respectent les libertés fondamentales, qu'elles soient proportionnées et non discriminatoires. Les attaques contre les personnes, les biens et les lieux de culte ne peuvent en aucun cas être tolérées. Elles ne pourraient être perçues comme légitimes. Il est de notre devoir de nous élever contre la barbarie. Il est de notre devoir de refuser d'y répondre par la violence. Aujourd'hui, nous pensons aux familles et aux proches des victimes, à leur peine et à leur désespoir que nous partageons. Je compte sur vous pour vous associer à l'élan de solidarité qui traverse la planète et notamment aux manifestations de soutien qui auront lieu dans les jours qui viennent partout en France. Je compte sur vous pour envoyer un message clair à ceux qui ont commis cet acte odieux. Nos valeurs sont plus fortes que la terreur et pour Charlie Hebdo, pour la liberté de la presse, pour l'humanité, nous continuerons de les défendre. Voilà, c'était le message de Amnesty International
France. Effectivement, hein. Bien, on va continuer donc on a dit que dans le cadre de la campagne Mon corps mes droits, donc Amnesty était sensibilisé au problème des violations des droits humains, notamment des violations des droits des femmes. Et dans ce cadre, donc tu voulais nous parler de la triste situation qui est faite à certaines femmes.
Voilà, en Irak, les femmes yézidis.
La communauté yézidi, oui.
Voilà. Alors, les combattants de l'État islamique utilisent le viol comme une arme lors de leurs attaques. Les femmes et les jeunes filles visées font partie des milliers de yézidis habitant la province de Sinjar, au nord-ouest de l'Irak, qui subissent depuis août une vague de nettoyage ethnique. Les actes de torture, notamment les viols et autres formes de violences sexuelles subies par ces femmes et jeunes filles, soulignent la sauvagerie de ce groupe armé. Ce sont des crimes de guerre et contre l'humanité. Un récent rapport donne la parole à plusieurs dizaines de femmes et jeunes filles qui ont réussi à s'échapper des mains de l'État islamique après avoir été captives des combattants. Elles sont des centaines, voire des milliers, à être mariées de force, vendues ou offertes à des combattants, irakiens ou syriens, ou des sympathisants de l'État islamique. Bien souvent, elles sont aussi forcées de se convertir à l'islam. Elles sont d'abord conduites dans des maisons où elles rejoignent des dizaines d'autres femmes captives, puis sont vendues à des hommes plus ou moins âgés. Plusieurs anciennes prisonnières ont déclaré qu'elles avaient été détenues dans des logements où elles vivaient aux côtés des épouses et des enfants de leurs ravisseurs. Randa, 16 ans, a été enlevée dans son village du sud du Mont Sinjar avec ses parents. Après être passée par une maison où étaient captives 150 jeunes filles et 5 femmes, elle a été donnée en cadeau à un homme 2 fois plus âgé qu'elle qui ensuite la viola. Son père avait été tué avec les autres hommes. Sa mère, enceinte lorsqu'elle a été enlevée, a donné naissance aux mains de l'État islamique et aujourd'hui elle continue d'être captive avec la petite sœur de Randa et le nourrisson. Randa, elle, a heureusement réussi à s'échapper avec sa cousine. De nombreuses victimes yézidis sont doublement affligées car elles doivent aussi surmonter la perte de dizaines de leurs proches qui sont toujours en captivité ou ont été tués par l'État islamique. De peur d'être vendues, données, mariées de force et violées, des jeunes filles se sont données la mort ou ont tenté de mettre fin à leur vie. Et nous allons écouter Wafa, qui a 27 ans et qui dit « L'homme qui nous détenait nous a dit que soit nous nous marions avec lui et son frère, soit il nous vendait. Une nuit, nous avons, Wafa et ma sœur, essayer de nous étrangler avec des écharpes. Nous avons enroulé les écharpes autour de notre cou, puis nous avons tiré chacune de notre côté aussi fort que nous pouvions, jusqu'à nous évanouir. Ce sont 2 autres femmes détenues avec nous qui se sont réveillées et nous ont arrêtées, puis nous ont maintenues réveillées pour nous surveiller. Mais à 5 heures du matin, lorsqu'elles se sont endormies, nous avons essayé de nouveau, mais elles se sont encore réveillées. Après cela, je n'ai plus pu parler pendant plusieurs jours. Les proches des femmes et des jeunes filles qui ont réussi à échapper à l'État islamique craignent que le traumatisme subi en captivité ne les conduise à tenter de se suicider. Et selon Donatella Rovera, conseillère principale d'Amnesty International pour les situations de crise, je la cite, « Le bilan physique et psychologique de l'épouvantable violence sexuelle que ces femmes ont subie est catastrophique. Beaucoup ont été torturées et traitées comme des objets. » Même celles qui ont réussi à s'échapper demeurent profondément marquées. Le traumatisme des victimes de violences sexuelles est encore aggravé par la stigmatisation liée au viol. Les victimes ont l'impression que leur honneur et celui de leur famille a été atteint et elles craignent que leur position sociale en soit diminuée. Beaucoup de victimes de violences sexuelles ne bénéficient toujours pas de l'aide et de tout le soutien dont elles ont absolument besoin. Il y a donc des efforts à faire, entre autres par le gouvernement régional du Kurdistan, les Nations Unies et d'autres organisations humanitaires qui toutefois interviennent et fournissent des services médicaux et d'autres aides aux victimes. Mais elles doivent intensifier leurs efforts. Ces instances doivent prendre les mesures nécessaires pour toucher rapidement et de manière proactive toutes les personnes qui ont besoin d'eux, et veiller à ce que les femmes et les jeunes filles soient informées du soutien qui est à leur disposition. Ces services doivent couvrir la santé sexuelle et reproductive et comprendre des conseils et une aide psychologique.
Alors, à signaler une bonne nouvelle, enfin si on peut dire, dans ce désastre, c'est qu'il y a une quinzaine de jours, donc autour du 18 janvier, le groupe État islamique a libéré des prisonniers. Donc dans le nord de l'Irak, la région dont tu parlais, les djihadistes de l'organisation État islamique ont relâché plus de 200 prisonniers qu'ils détenaient depuis plusieurs mois. Les civils libérés sont des yézidis, donc minorité religieuse kurdophone, particulièrement persécutée par ce groupe. Des responsables irakiens se sont dit surpris par ces libérations, assurant que le geste n'avait fait l'objet d'aucune coordination ni négociation avec l'organisation État islamique. Alors, selon des sources locales, et donc c'est là ce qui montre les limites de la gentillesse de ces personnes, les yézidis relâchés sont nombreux à être blessés, malades ou handicapés. Et ils sont nombreux aussi, tu l'as dit, à souffrir de troubles psychologiques. Tous ont été conduits vers un centre de soins au Kurdistan irakien. Ce territoire autonome qui accueille déjà des centaines de milliers de déplacés ayant fui l'avancée des djihadistes dans le nord de l'Irak. Alors il faut rappeler que lors de sa progression dans cette région, L'année dernière, l'organisation État islamique a multiplié les exactions visant les yézidis. Pourquoi ? Parce qu'ils sont considérés comme hérétiques par les islamistes radicaux. Hein. Et plusieurs milliers seraient actuellement détenus par les djihadistes de ce groupe en Irak ou en Syrie voisine.
Notre émission Amnesty International se poursuit sur FM+, avec une situation de violation des droits des femmes en Indonésie. Là-bas, au contraire des hommes, les jeunes indonésiennes qui veulent embrasser la carrière de policière sont soumises à un test de virginité, une pratique ancienne et officieuse que les militants des droits des femmes dénoncent, mais que certains rêvent de voir étendue à d'autres professions. Au nom de la pureté morale. Alors Jean-Marie, Amnesty mène actuellement une campagne appelée « Mon corps, mes droits » qui prône la défense des droits des femmes, notamment en matière sexuelle. Cette pratique va exactement à l'inverse en Indonésie.
Effectivement, il ne suffit pas donc qu'elles aient une bonne condition physique, du sang-froid, le respect de la loi et le goût de la justice, encore faut-il qu'elle soit pure, pure c'est-à-dire vierge. En Indonésie, les jeunes femmes qui souhaitent intégrer les forces de police et l'armée sont contraintes de passer un examen médical afin de déterminer si elles ont déjà eu des rapports sexuels. Alors cette question des tests de virginité est un sujet qui revient régulièrement dans l'archipel, mais il concerne généralement les lycéennes que les autorités de certaines provinces affirment vouloir détourner ainsi de la prostitution ou simplement de relations sexuelles prémaritales. Or, il apparaît que dans certaines provinces du pays, la police pratique de tels tests sur les futurs recrues depuis 1965 au moins, hein, c'est-à-dire 50 ans. Hein. C'est ce qu'estime en tout cas Andreas Arsenault, le représentant de Human Rights Watch en Indonésie, dont l'organisation a publié plusieurs rapports sur ce sujet. Alors jusqu'ici, la pratique n'était pas officiellement écrite noir sur blanc dans le décret fixant les conditions de recrutement, même si de fait elle s'institutionnalisait petit à petit au sein de l'archipel. Certaines provinces, cependant, n'imposaient pas un tel examen. À Nusa Tenggara, par exemple, à l'est de l'archipel, où l'islam est moins implanté qu'à Java ou Sumatra, les femmes ne sont pas testées aujourd'hui pour savoir si elles sont vierges ou pas. Un récent texte, que l'on ne peut trouver que sur certains sites d'information de la police, rend cependant les choses plus explicites. Il officialise, à partir de cette année, les différents examens médicaux que les jeunes recrues sont contraintes de passer. Hommes et femmes doivent faire vérifier leur vue, leur ouïe, leur pression sanguine, etc. Mais le site d'information concernant les examens spécifie que désormais toute femme souhaitant devenir policière devra passer un test de virginité, dit, avec élégance, des deux doigts. Une discrimination flagrante, puisque bien sûr, les hommes ne peuvent pas être testés pour savoir si oui ou non ils ont déjà eu des rapports sexuels. Et d'ailleurs, on ne leur pose même pas la question.
Mais est-ce que ces femmes sont informées de ces pratiques ?
Alors, bien que de tels tests existent depuis plusieurs décennies dans certaines zones du pays, on l'a dit, de nombreuses femmes qui souhaitaient intégrer la police ou l'armée affirment qu'elles ne savaient pas qu'il allait leur être infligé. Les futures recrues ne l'apprenaient qu'à la dernière minute. Normalement, toutes les femmes, les tests médicaux se font séparément bien sûr, toutes les femmes entrent ensemble dans la salle d'examen et sont divisées en groupes de trois. Puis on les fait entrer dans une autre salle et on leur demande de retirer leurs vêtements afin que l'examen puisse être pratiqué. C'est ce qu'explique toujours Andreas Arsenault. C'est à ce moment-là que l'infirmière ou le médecin entre deux doigts dans le vagin de la femme, puis écrit le résultat sur un papier sans le dévoiler à la candidate. Elles ne savent donc pas si elles ont « réussi » entre guillemets le test ou pas. Alors que montre ce test ? Tout d'abord la présence ou non d'hymen, mais aussi apparemment la flexibilité des muscles vaginaux, ce qui déterminerait si le vagin de la patiente est « habitué », sous-entendu si elle a des rapports sexuels réguliers. Or, il est scientifiquement établi que de nombreuses femmes naissent sans hymen, ou que celui-ci puisse avoir été déchiré autrement que par une pénétration vaginale. La pratique de ce test dévoile donc le manque d'informations et de connaissances sur l'anatomie féminine dont les femmes sont les premières victimes.
Et quelles sont les justifications apportées par l'armée et la police pour justifier ces pratiques-là ?
Alors les raisons mises en avant jusqu'ici par le gouvernement provincial, la police ou l'armée pour légitimer ce test varient. Alors tantôt il s'agit d'une mesure de prévention contre le sida, ou pour vérifier si une jeune fille a été exploitée commercialement, comme ils disent, c'est-à-dire prostituée. Hein. Mais dans les faits, il s'agit bien de décréter si les femmes, toutes majeures, qui veulent entrer dans les forces de l'ordre et doivent rester célibataires pendant tout le temps de leur entraînement, donc si ces femmes sont, je cite, moralement pures ou pas. Car il reste très mal vu pour une femme en Indonésie de ne pas être vierge quand elle se marie. Pourtant, personne ne devrait avoir l'autorité de décréter quoi que ce soit sur le corps d'une femme, si ce n'est elle-même, explique Yefri Eriani, membre d'une ONG qui lutte contre ces violences faites aux femmes à Sumatra. Évaluer la condition physique d'une femme, surtout contre sa volonté, relève d'institutions patriarcales vraiment négatives. Lorsqu'on m'a fait passer le test, il y avait 20 autres candidates dans la salle d'à côté, et la porte était restée ouverte. C'était très douloureux. J'étais nerveuse, bien sûr. Je me suis sentie humiliée. Mais si j'avais refusé, je n'aurais pas pu entrer dans la police. explique une jeune femme devenue policière qui préfère rester anonyme. Je comprends que l'on vérifie notre santé. Cela ne peut que nous aider pour notre entraînement. Mais le test de virginité n'a rien à voir avec nos compétences physiques. C'est un obstacle dans la carrière d'une femme.
Quelles sont les conséquences physiques et psychologiques de ces pratiques sur les candidates ?
À Bandung, dans l'ouest de l'île de Java, Sri Mulyati, militante au sein de l'Institut SAPA, une organisation qui lutte pour les droits des femmes, explique que les tests de virginité sont, je cite, « une forme de violence sexuelle qui suggère qu'on ne peut pas faire confiance aux femmes et qui les sous-estime ». En outre, cela a un impact sur leur santé mentale et physique. C'est quelque chose qu'elles vont devoir garder en elles toute leur vie. Andrea Sarsono, déjà cité, rappelle que, dans l'exercice de leur profession, ces policières seront peut-être amenées à gérer les violences domestiques subies par d'autres femmes, ce qui risque de constamment les renvoyer à leur propre traumatisme. Lorsque l'on tente d'interroger des médecins, des infirmiers, des policiers, pour savoir pourquoi ce genre de test leur paraît normal, aucun n'ose répondre. Bravo, hein. C'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait que c'est monnaie courante, mais personne ne veut en parler. Certains membres masculins des forces de l'ordre jugent d'ailleurs qu'il est normal de faire passer un tel test aux futures femmes d'officiers également. N'est-il pas légitime de savoir si sa future épouse est moralement pure ? D'autres catégories professionnelles sont concernées par ces examens. Sri Mulyati ajoute « On en parle moins, mais les femmes célibataires qui souhaitent entrer au ministère de l'Intérieur, ainsi que celles qui veulent être hôtesses de l'air pour l'une des compagnies aériennes d'État, subissent également ce fameux test de virginité. L'an dernier, un membre du gouvernement du district de Pramubuli, au sud de l'île de Sumatra, proposait de faire passer des tests du même genre aux lycéennes pour éviter qu'elles aient des relations prémaritales et pour éviter la prostitution des jeunes filles. Considérant cette requête comme abusive, les organisations non gouvernementales internationales, dont Human Rights Watch, ont protesté. Le projet a pour le moment été abandonné, mais il revient régulièrement au cœur du débat dans de nombreuses provinces indonésiennes.
Et est-ce que ces violations des droits des femmes sont spécifiques à l'Indonésie ?
Non, cette pratique n'est pas propre à l'Indonésie. Hein. Bien d'autres pays le font passer aux femmes pour diverses raisons. En Inde, par exemple, il a suscité une grande polémique, car jusqu'en 2014, les médecins utilisaient cette technique sur les victimes de viols. On sait quelle est l'importance du viol en Inde, et en tirait la conclusion qu'elles étaient, je cite, « habituées à avoir des rapports sexuels ». La seule façon d'éliminer une bonne fois pour toutes cette pratique barbare, selon les ONG indonésiennes et internationales, est de lancer une campagne pour dénoncer cette tradition dangereuse qui fait de ces jeunes femmes des victimes de violences sexuelles. Mustang Sally. Guess you better slow your Mustang down. Oh Lord, what I said now, Mustang Sally now, baby. Oh Lord, guess you better slow your Mustang down. Ah! Reprise et fin de notre émission donc sur Radio FM+, avec des bonnes nouvelles, enfin relativement bonnes, et qui vont aussi dans le sens de notre campagne Stop Torture. Hein, on rappelle, en dehors de la campagne Mon Corps, Mes Droits, Amnesty mène aussi une campagne active pour faire cesser toute torture.
Et c'est une bonne nouvelle qui a lieu au Royaume-Uni.
En effet, oui, vas-y Marie-Thérèse.
Le gouvernement a été poursuivi pour une affaire de torture, en effet. Alors, l'homme politique libyen Abdul Hakim Belal a salué une décision de la Cour d'appel de Londres le 30 octobre 2014, lui permettant de poursuivre en justice le gouvernement britannique. Enlevé en 2004 avec sa femme marocaine, Fatima Bouchar, alors enceinte, lors d'une opération conjointe d'agents américains et libyens, le couple avait été transféré illégalement à Tripoli, en Libye. Les conjoints y avaient été torturés par des agents du gouvernement de Muammar Kadhafi et du gouvernement américain, avec la coopération de hauts fonctionnaires britanniques. Prétextant que ces actes illégaux avaient été commis à l'extérieur du Royaume-Uni et en coopération avec des agents d'un État étranger, le gouvernement britannique a tenté de se dédouaner de toute implication dans des violations de droits humains, y compris des actes de torture. Mais la Cour d'appel a rejeté cet argument. L'affaire sera bel et bien portée devant le tribunal. Et je vais citer John Dalhuysen, qui est directeur du programme Europe et Asie centrale d'Amnesty International. Cet arrêt est important et justifié. En effet, les États ne doivent pas se voir autorisés à camoufler leur complicité dans des actes de torture en invoquant des théories juridiques destinées à préserver les bonnes relations entre États. Selon lui, ce jugement constitue donc une première étape vers l'instauration au Royaume-Uni d'une obligation de rendre des comptes qui s'est fait attendre bien trop longtemps. Et cette dernière phrase est aussi de John Dalhuysen.
Alors, à propos de torture, ben on sait que Guantanamo a été pendant longtemps un centre de torture, hein, où la torture était massivement pratiquée par les États-Unis. Et ces États-Unis ont admis qu'ils avaient franchi la limite. C'est en tout cas ce qu'ils ont dit le 12 novembre 2014 dans une audition à Genève devant le comité de l'ONU contre la torture. Un rappel, le pays donc qui administre le centre de détention de Guantanamo Bay reconnaît désormais que la Convention des Nations Unies contre la torture s'applique aux actes de ses agents dans l'enceinte du camp, qui regroupe encore actuellement 132 détenus, hein, que M. Obama avait promis de libérer. Alors, pour le directeur du programme Personnes en danger d'Amnesty International États-Unis, Zeke Johnson, cette reconnaissance qui arrive un peu tard n'est qu'un début. La prochaine étape essentielle consisterait à déclarer très clairement que les États-Unis sont tenus de respecter la Convention partout où ils exercent un contrôle effectif. C'est ce qu'il a déclaré le 27 octobre dernier, alors qu'il assistait au débat à Genève. On rappelle qu'Amnesty International se bat depuis toujours pour la fermeture du centre de Guantanamo, promesse du président Barack Obama, je le rappelais, lors de son entrée en fonction pour son second mandat en janvier 2009. On termine, Marie-Thérèse, par un chiffre, ou plutôt par un nombre important qui nous donne de l'espoir.
Oui, 198 128 membres et militants, dont 25 000 en France, ont signé une pétition pour demander que les femmes et les jeunes filles tunisiennes ayant subi des violences sexuelles soient protégées. La pétition a été remise aux autorités de Tunis le 18 novembre 2014.
Voilà, on vous invite également à lire le rapport qu'Amnesty International a publié récemment sur les violences faites aux femmes en Égypte. C'est un rapport récent donc qui dénonce une fois de plus les pratiques qui se font en Égypte et l'impunité dont jouissent les violeurs et tous les malades, on peut dire, qui sévissent dans ce pays. Voilà, donc le site, c'est amnesty.fr. Vous y trouverez des informations, des pétitions à signer en ligne.
Et nous avons notre loto annuel.
Absolument.
À Castelnau-le-Lez, le vendredi
6 février.
6 février.
Et c'est le 20e anniversaire de ce loto. Et on vous promet qu'il y aura de super lots. Donc on vous y attend vendredi 6 février à partir de 20h.
À partir de 20h.
Voilà. Merci à vous.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.